les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
La plus rebelle des radios.
What you call is a diamond fella. All you little boys of a comedy appearance. You fellow with your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You mid summer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capulet, you're money, you ain't feeling.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 11 novembre 2015. Il est 19h passé de presque 6 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, on va tension à Calais. À Calais, rien de neuf, toujours la même merde.
L'Afrique du Sud, elle, peut condamner des policiers meurtriers.
Crispation entre Londres et Bruxelles, Cameron joue les eurosceptiques.
Cap sur la COP 21, appel de Notre-Dame-des-Landes.
Mobilisation des vacataires à Lyon 2.
Et ensuite, ça sera la rubrique « Il faut que ça se sache ».
Et puis voilà. The merchant of Venice getting to your CV. As for me, all's well, the end's well. Your
boy is like my best, you're going to hell. Measure for measure, I am the best. Donc pour la troisième nuit consécutive, des migrantes et migrants et des forces de l'ordre se sont affrontés à Calais. Jets de pierre contre gaz lacrymogène, matraque, etc. Donc c'est une centaine de personnes qui a tenté de bloquer dans la nuit là, de mardi à mercredi la rocade qui mène au port. Pas pour rien et pour faire chier, mais pour monter à bord des camions en partance pour l'Angleterre. Et alors, on parle d'une centaine de personnes et ce sont un millier de flics qui ont été déployés. Ce qui est quand même pas rien. Donc, à Calais, ça n'étonne pas grand monde. Et puisque les migrants et migrantes sont à bout et tentent de rejoindre l'Angleterre. Et les collectifs et assos n'arrivent pas à pallier aux nécessités des arrivants. Bref, le serrage de boulons, la répression policière peut faire que augmenter la tension. Donc, tant que les migrants font office de pauvres victimes, comme on a pu entendre en septembre, etc., il y a de la compassion dans les médias, on comprend ces migrants. Mais lorsqu'ils ripostent et donc qu'ils ne se laissent pas faire face aux coups des flics et aux envois au centre de rétention dans toute la France, là il y a un déploiement policier et il y a une médiatisation des méchants migrants qui dérangent le bon fonctionnement du pays. Donc eux ils s'organisent pour tenter de passer et bam, ils sont criminalisés. Il ne suffit finalement que d'un peu d'auto-organisation pour faire jaser toute la sphère politique de droite comme de gauche. Et pire, vous allez voir, nos responsables politiques de gauche les paternalisent. Et puisque Pierre-Henri Brandet, donc, qui est le porte-parole du ministère de l'Intérieur, donc soit de gauche, soit du PS... Il faudrait mieux dire du PS, n'imagine pas que des migrants puissent ensemble se donner les moyens d'une résistance face aux flics. Puisque ce matin, sur France Info, il a déclaré que les no-borders seraient responsables des échauffouries qui ont lieu depuis 3 nuits aux abords des campements. Je cite, « Ces militants profitent du désarroi des migrants et les poussent à l'émeute ». Autre citation. Il y a derrière la détresse de ces migrants des personnes irresponsables qui instrumentalisent cette misère à d'autres fins que des fins humanitaires. Donc voilà, en fait, c'est des, pour lui, c'est des gens absolument incapables de penser par eux-mêmes et s'organiser par eux-mêmes, ce qui est quand même juste taré, quoi. Et la préfète, elle, du Pas-de-Calais, c'est Fabienne Boussiot, a déclaré, elle, mardi, lors d'une conférence de presse, que certaines associations comme No Border les organisent, leur donnent des outils pour venir à la rencontre des forces de l'ordre.
Mais c'est No Border, ils sont vraiment hyper forts, quoi.
Ouais, franchement, c'est vrai que...
Et ouais, quand tu vois, surtout quand tu vas à Calais, juste bah, des migrants qui sont... qui en peuvent plus, quoi, qui sont juste à bout. Tu vois pas tant que ça d'autres personnes, quelques personnes, mais voilà. Et puis moi, ce qui me fait rigoler là dans ces trucs, c'est qu'il y aurait l'humanitaire, donc soi-disant la bouffe, les couvertures qui seraient bien, et les autres choses mal, sauf que c'est un ensemble là dont les gens, ce que les gens ont besoin. Bon, moi, j'avais besoin quand même de faire un petit rappel. Donc, qui a des uniformes renforcés, qui a des boucliers, qui a des armes non létales, qui est-ce qui a du gaz, qui est-ce qui a des matraques. Vous voyez, c'est tellement inégal le jeu, et on le sait, on ne fait que le dire dans ce Canu Info, et que les migrantes, c'est les migrantes qui vivent de la répression au quotidien, et ces personnes ont besoin de se faire souffler des mots de personne pour se défendre face à la police. Et pour finir, une petite déclaration de Natacha Bouchard, donc qui est la maire et qui fait partie de Les Républicains à Calais, et qui a de nouveau réclamé l'intervention de l'armée. Et donc, bah, c'est malheureux à dire, mais voilà. Au moins, je trouve que c'est pas mal, parce que ça expliciterait la situation présente, c'est-à-dire la guerre acharnée contre les migrants dans cette Europe forteresse.
En Afrique du Sud, 8 flics ont chacun écopé de 15 ans de prison aujourd'hui pour le meurtre en 2013 d'un chauffeur de taxi mozambicain, Mido Macia, qui avait 27 ans. Il faut dire que les flics en question n'y étaient pas allés de main morte suite à une altercation pour une histoire de stationnement géant. Ils avaient menotté le jeune homme à leur voiture et puis ils avaient démarré, puis ils l'avaient traîné comme ça. Ça a été filmé. Pas une vidéo amateur, quoi. Après, ils l'ont quand même embarqué dans l'état où il était, c'est-à-dire quand même déjà grièvement blessé. Ils l'ont mis en cellule, et là, ils sont retournés en cellule pour lui faire une grosse tête. Alors bon, bien sûr, quelques heures après, ils l'ont retrouvé mort, gisant dans une mare de sang. L'autopsie a bien montré qu'il avait des plaies à la tête, des lacérations, des hématomes, qui étaient autre chose que d'avoir été traîné par la bagnole, donc il y a bien eu les deux parties. La vidéo avait circulé sur les réseaux sociaux en Afrique du Sud et même plus largement dans le monde. Et l'opinion publique y avait été à l'époque d'autant plus sensible que cette histoire arrivait quelques mois seulement après une autre assez gigantesque bavure des flics sud-africains. C'est le fameux massacre de Marikana où 34 mineurs en grève avaient été flingués par la police. Ça, c'était en août 2012. Alors, au procès des flics, alors donc ceux qui ont tué le chauffeur de taxi là, les flics, eux, les flics, c'est décidément partout les mêmes, partout autour du globe, hein, ils ont affirmé qu'il avait résisté durant son arrestation et qu'il les avait insultés. Voilà, il y a une vidéo qui les montre l'avoir menotté à la bagnole et la bagnole qui démarre. Le chauffeur du fourgon de police a lui assuré qu'il ne savait pas que le gars était accroché derrière son véhicule quand il a démarré. Il l'a ni vu, ni senti, ni rien. Alors, par contre, on dirait que les juges, eux, ne sont pas les mêmes partout autour du monde, puisque le juge BAM, en l'occurrence, celui-ci, a rejeté la ligne de défense des policiers. Il a estimé qu'elle était bourrée d'incohérences et d'affirmations improbables. Et il a retenu la thèse du parquet selon laquelle les flics avaient voulu donner une leçon aux chauffeurs de taxi parce qu'ils les avaient insultés. Alors bon, nous c'est pas pareil, on est en France, heureusement. Ici, les flics, ça arrive jamais qu'ils menottent des gens à l'arrière des bagnoles et qu'ils les traînent sur de vastes longueurs, ça au moins, on peut le dire, ça n'arrive pas. Bon, ça arrive quand même que les flics butent des gens. Et alors ici, quand même, contrairement à l'Afrique du Sud, les familles de, par exemple, du petit Nelson, de Hakima Jimmy ou de Ali Ziri peuvent toujours témoigner que par contre, les flics ne sont jamais, jamais condamnés.
crispation entre Londres et Bruxelles, Cameron joue les eurosceptiques. Donc, je me tente aujourd'hui à de la politique politicienne. J'ai pas l'habitude de faire ça. Alors, hésitez pas à m'arrêter si c'est pas clair et on essaiera de. J'essaierai d'être plus clair. Donc, pour rappeler en trame de fond que l'immigration est l'un des points de crispation forts entre Londres et Bruxelles, et notamment par rapport à ce dont on parlait avant, mais la situation à Calais, et du coup le renforcement poussé par Londres du port à Calais pour qu'il y ait le moins possible de migrants qui rentrent en Angleterre. Mais c'est pas exactement de ça dont on va parler. Donc hier, donc c'était le mardi 10 novembre, le Premier ministre britannique, le conservateur David Cameron, a détaillé ses conditions pour rester au sein de l'Union européenne. Donc ce qui sous-entend qu'il veut se barrer de l'Union européenne. Donc il est pris en tenaille entre les milieux d'affaires europhiles, donc pro-européens, et une majorité eurosceptique. Donc le Premier ministre a énoncé ses exigences à Bruxelles dans une lettre au président du Conseil européen, Donald Tusk. Donc les pourparlers doivent commencer la semaine prochaine à Bruxelles. Donc lui, il est fort des réformes qu'il espère obtenir. Le chef du gouvernement entend organiser un référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le plus rapidement possible. Donc lui, il essaye de surtout essayer de se faire réélire et aimer un peu de sa population. Donc je vais décrire ce qu'il demande dans sa missive. Donc il y a 4 exigences clés. 1. En matière de souveraineté, une garantie explicite contre toute évolution forcée vers le fédéralisme, ainsi que le droit de veto d'un groupe de parlements nationaux sur toute directive européenne hostile aux intérêts britanniques. En gros, renforcer les eurosceptiques au Parlement européen, pour simplifier. Deuxièmement, une restructuration de l'Union pour éviter que les 19 États membres de la zone euro n'imposent leur vue à ceux qui n'en font pas partie, en particulier en matière de réglementation financière, contrariant les intérêts de la City. Donc, un libéralisme, un capitalisme ultralibéral. 3. L'expansion du marché unique des biens et des services. Bon, ça va dans la même direction. Et 4. L'interdiction pour les travailleurs de l'Union européenne au Royaume-Uni de toucher des allocations sociales pendant une période de 4 ans. Donc, il n'a pas envie que les travailleurs européens viennent en Angleterre, ça c'est clair. Donc, l'objectif de Cameron... là c'est les objectifs pour lui ses enjeux au niveau du Royaume-Uni est de ne pas effaroucher les partenaires jugés les plus hostiles aux revendications britanniques. Donc les pays de l'Est sont ainsi opposés à toute entrave à la libre circulation des travailleurs. La France, la Belgique et l'Espagne voient d'un mauvais œil l'avènement de cette Europe à la carte chère aux Britanniques. Et donc, pour arriver à ses fins, le Royaume-Uni compte sur l'appui des Pays-Bas, du Danemark et de la Suède, ainsi que sur la volonté allemande d'éviter à tout prix un Brexit. Vous savez ce que c'est un Brexit ?
Ouais, c'est quand les Britanniques se barrent de l'Europe.
C'est comme le Grexit.
Yeah, c'est...
comme avant, il y a la menace du Grexit.
Voilà, c'est comme British exit, comme sortie. Donc, sortie, scénario de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc, lui, David Cameron, est un eurosceptique modéré. Donc, voilà, c'est ça qui est dit. Hostile au retrait de l'Union européenne. Lui, il s'est entouré d'une garde de fer euro-réaliste, qui se s'autodétermine euro-réaliste. En gros, plein de gens de la City qui font marcher l'économie et qui sont plutôt pro-européens, quoi. Par contre, il est dans un environnement majoritairement eurosceptique et cette majorité a la haute main sur le processus de décision dans les affaires européennes. Donc vous voyez, c'est pas si simple pour lui. Donc lui, il a quand même des marges de manœuvre qui restent limitées par des considérations de politique intérieure. Donc il a été battu à plate couture aux élections du 7 mai 2015. Les libéraux démocrates et les travaillistes traditionnellement pro-européens ne peuvent faire que de la figuration sur ce dossier. Par ailleurs, le Premier ministre est obligé de garder ses distances avec les nationalistes écossais, certes en faveur du maintien dans l'Union, mais qui rêve toujours d'une indépendance. Et lui, il n'en veut pas. Du coup, voilà. D'autant que sa droite, son champ d'action est truffé de mines. Avec une majorité de seulement 12 députés, Cameron est virtuellement prisonnier d'un bloc conservateur favorable au Brexit, d'une soixantaine de députés. Et par ailleurs, s'il n'a obtenu qu'un siège, le parti populiste et europhobe UKIP, UKIP, qui peut se targuer d'avoir recueilli plus de 4 millions de voix et parvenu à phagocyter la campagne en faveur du retrait. Vous me suivez à peu près ?
Oui.
Donc là, on a fait un peu les enjeux européens, après et les enjeux intérieurs. Donc le calcul de Londres est simple. En présentant donc hier ses revendications générales, non détaillées, le 10 Downing Street compte obtenir un accord de principe lors du Conseil européen de la mi-décembre. Et un feu vert lui permettrait d'organiser rapidement une consultation en vue de prendre ses adversaires de vitesse. Dès juin 2016, à l'issue des élections locales ou à l'automne, là où David Cameron entend rééditer alors sa victoire lors du référendum écossais du 18 septembre 2014, en jouant la carte du coût économique d'un Brexit et en espérant que sur cette question la raison l'emporte à nouveau sur la passion et donc qu'il reste dans l'Union européenne. Alors voilà, et tout à l'heure j'ai dit l'inverse de ce que je voulais dire et du coup ça disait l'inverse, alors je préfère revenir dessus, c'est-à-dire que quand je disais que il s'est entouré d'une garde de fer auréaliste et c'est eux qui ont la haute main sur le processus de décision dans les affaires européennes et non la majorité eurosceptique. Ce qui est quand même une grosse incompréhension sinon. Voilà, merci.
Et ben pour digérer ça, on n'a qu'à se faire une petite pause musicale.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros muteraient et finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromanes et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que
voyous au constat, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos groupes partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi, je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends, je n'attends plus qu'elle-même.
Eh bien, c'est à nous.
Bah, c'est, on peut présenter la chanson, c'était Kerry James.
Lettre à la République.
Alors, très bien. Alors, merci Kerry. Et maintenant, on part du côté de Notre-Dame-des-Landes avec l'appel qui vient d'être publié pour un petit convoi en direction de la COP21.
Et c'est quoi alors la COP21?
C'est un sommet international pour agir contre le réchauffement climatique. Sommet de la dernière chance, bien sûr, comme les 30 derniers. Mais bon, ceci dit, il va être temps qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent à se bouger et à faire des choses un peu plus malines que d'inviter un sommet contre le réchauffement climatique, tout en annonçant que la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est cohérente avec l'objectif de ce sommet. On vous avait raconté ça la semaine dernière, c'était signé Manuel Valls.
Mais du coup, c'est un convoi qui va y aller en vélo?
En vélo et en tracteur, ce qui n'est pas top pour le réchauffement climatique.
Ouais, mais c'est cool pour faire des bouchons.
C'est ça. Alors, bon, allez, je vous lis l'appel. Hein. Je vous lis un petit bout de l'appel, en tout cas. À l'occasion de la COP21, plusieurs territoires en lutte ont décidé d'organiser un convoi vers Paris afin de visibiliser quelques-uns des enjeux concrets auxquels ce sommet dit de la dernière chance entend remédier. En accueillant au Bourget les représentants de 195 pays autour de questions cruciales concernant la survie de la planète, le gouvernement français s'offre une nouvelle et très opportune image de leadership en matière de tractation environnementale. Mais sous la peinture verte, la réalité est plus sombre. Partout, des projets nuisibles sont imposés en dépit d'une opposition croissante à laquelle l'État répond par la répression. Partout, des infrastructures inutiles et destructrices menacent de voir le jour sous la pression conjuguée d'élus et des entreprises privées galvanisées par le mirage de la croissance. C'est le bon moment pour dénoncer l'incohérence et l'hypocrisie d'un gouvernement qui prétend s'engager pour le climat et affiche dans le même temps sa volonté d'expulser la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, de détruire 1600 hectares de terres agricoles et de zones humides afin d'y construire un nouvel aéroport. Notre convoi de cyclistes et de tracteurs partira donc dans Notre-Dame-des-Landes avec la volonté de créer des moments conviviaux de rencontre et de mobilisation et de réaffirmer une volonté commune de résister en cas de tentative d'expulsion de la ZAD et de démarrage des travaux. Ce convoi regroupe différentes composantes du mouvement anti-aéroport, tels que les occupants et occupantes de la ZAD, des paysans et paysannes en lutte, des associations et organisations solidaires. Le convoi partira le 28 novembre de Notre-Dame-des-Landes et le 21 novembre, pardon, de Notre-Dame-des-Landes, et il arrivera à Paris le 28.
Et est-ce que vous êtes allé parce que lundi 9 novembre à Lyon, il y avait la marche qui partait de Fort-Calquier pour monter à la COP21 qui passait à Lyon. Alors je me demandais si vous étiez à cet événement.
Non. Non.
Moi non plus. Alors voilà, mais en tout cas, il y a une autre marche qui est partie du sud vers le nord. Voilà.
Du coup, tout le monde converge.
Tout le monde converge pour
foutre la zone à la COP21.
Ouais, puis pour montrer que ces entreprises qui sont invitées à la COP21 Bah, c'est du foutage de gueule parce que c'est une bonne conscience pour des grosses multinationales pour polluer plus.
En tout cas, il y a, a priori, il va y avoir une espèce de d'énormes dispositifs policiers là-bas, parce que bon, déjà il y a les trucs du terrorisme, tout ça là, vous savez, et là il y a eu un rapport qui est sorti il y a pas longtemps là sur sur l'ultra gauche qui va être très 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 mobilisé, et sur notamment sur les black blocs, ou pareil que pour les no-borders, ils font tout un espèce de compliment des black blocs qui sont hyper intelligents dans les tactiques d'émeute comme ça, qui arrivent à adopter plein de stratégies hyper malignes et tout pour faire chier les flics, pour voilà. Du coup, il y a un peu ce truc des renseignements français et européens là, avec pour les écolos radicaux vachement
en Allemagne. Les plus fort que Daesh.
Exactement.
Petite information syndicale, une mobilisation des vacataires de l'université Lyon 2. Donc l'année universitaire 2014-2015 à Lyon 2 avait été marquée par une grève et une mobilisation de vacataires en réaction à la généralisation de situations précaires. Absence de contrat de travail, non-versement des salaires, etc. À la suite de cette mobilisation, la présidence de l'université s'était engagée à remédier à ces problèmes. Mais force est de constater que depuis, rien n'a été fait et que la précarité reste le mot d'ordre en termes de gestion du personnel. Donc vacataires sans contrat de travail, réduction de budget et des effectifs, précarisation des non-titulaires, non-versement des salaires, extériorisation de certains services, cours surchargés, etc. Et rien n'a changé depuis l'an dernier pour beaucoup d'entre eux. Donc pour ces raisons, Sud Éducation Lyon 2 appelle l'ensemble des vacataires et des précaires à une réunion ce jeudi 12 novembre à 18h30 sur le campus des quais, voilà, afin de discuter sur l'ensemble de ces problèmes. Donc je répète, rendez-vous ce jeudi 12 novembre à 18h30 devant l'amphi La Prade sur le campus des quais de Lyon 2.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. C'est que les lois mises en place. C'est que les lois mises en place.
Contre la machine.
Alors, lundi, une émeute a éclaté dans le centre de rétention de l'île de Krishma, dans l'océan Indien. Alors, c'est la mort d'un des co-détenus qui a mis le feu aux poudres, la mort de Fazel Chejeni. Alors, désolé si je prononce mal son nom, je prononce sûrement mal d'ailleurs, qui est un kurde d'Iran. Alors, sa mort s'est déroulée dans des circonstances assez floues. Samedi, il avait tenté de s'évader du centre de rétention et son corps a été retrouvé le lendemain matin au pied d'une des falaises de l'île. Alors, ce centre de rétention détient 203 hommes, dont des demandeurs d'asile et des ressortissants étrangers qui sont pour beaucoup néo-zélandais, qui sont en cours d'extradition. Alors c'est un truc qui n'existe pas en France. En France, il n'y a que des gens qui sont en procédure d'expulsion. Le lundi, l'émeute éclate, plusieurs parties du centre sont incendiées, les gardes du centre ont dû faire face à des prisonniers armés de machettes et de cocktails Molotov, pardon.
Ça aurait été pas mal, ça.
Ouais, vous imaginez la gueule de l'émeute, quoi. Les forces sont quand même à fuir le centre, ce qui est quand même pas mal. Ce n'est que le lendemain que les gardes sont parvenus à reprendre le contrôle du centre. Alors, de l'aveu même du ministère, la reprise en main a pu se faire en négociant avec une partie des détenus. Donc, on imagine quand il parle de négociation, il parle surtout de pression. Hein. Mais qu'il y avait aussi, ils avaient aussi dû employer la force face à des groupes de migrants qui s'étaient construits quand même des barricades à l'intérieur du centre et qui attaquaient de manière relativement féroce les flics. Il y en aura eu pour environ 1 million de dollars australiens, ce qui représente 650 000 euros. Pour les dégâts à l'intérieur du centre, bon, il y a eu du coup des parties incendiées, des barrières qui ont été pliées, tout ça quoi. Et aussi, du coup, on imagine et on espère, comme souvent dans ce genre de cas, que le nombre de places risque d'être également fortement impacté. Alors tout ça s'inscrit dans un contexte où l'Australie a mis en place une politique de l'asile extrêmement dure. Tout bateau de clandestins, ça fait un moment quand même, hein, mais tout bateau de clandestins repéré sont refoulés au large des côtes australiennes par la marine australienne. Ceux qui ont réussi à ne pas se faire pincer avant de débarquer sont immédiatement placés dans le centre de rétention installé sur les îles, comme celui de l'île de Christmas, là où il y a eu l'émeute, mais aussi sur les îles de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou de Nauru. Alors, si les demandeurs d'asile est jugé légitime, donc c'est-à-dire que le dépôt du dossier est accepté, ça veut pas dire qu'ensuite il a des papiers ou quoi, c'est juste dire que son dossier est complet et du coup légitime, bref. Le demandeur d'asile n'a pas le droit de s'installer en Australie et il doit donc attendre dans ses centres de savoir si leur demande est acceptée ou refusée. C'est pas du tout le bon générique, mais tant pis. Ah, c'est encore à moi en plus. Alors, depuis aujourd'hui, à La Valette, capitale de l'île de Malte, se déroule un sommet entre les dirigeants de l'Union européenne et plusieurs dizaines d'États africains. Alors, bien évidemment, la question qui sera discutée est celle des migrants et comment il est possible d'y apporter des réponses ultra sécuritaires, peu importe le prix à payer. En gros, l'idée n'est pas de créer de nouveaux processus, mais de renforcer ceux déjà existants, comme le processus, alors là je cite AGMM, pour Approche globale des questions de la migration et de la mobilité, initié en 2005 et revu en 2012. Le but de ce truc, en gros, c'est de délocaliser la gestion carcérale des migrants. En général, ça se traduit par lâcher plein de thunes au pays de départ et au pays de transit. Alors, non pas pour apporter une aide concrète pour que les personnes galèrent moins sur place et vivent dans des meilleures conditions, bien sûr, mais pour que la construction de centres de rétention gérés par les autorités locales et pour qu'il y ait plus de moyens accordés pour contrôler la zone de départ pour pouvoir arrêter les migrants avant qu'ils arrivent en Europe. Alors imaginez que ça se passe dans des pays gérés par des politiques quand même ultra autoritaires et dictatoriales. On vous laisse imaginer les conditions de détention. Alors tout ça n'est pas nouveau, on en avait déjà eu un bref aperçu quand Kadhafi était encore au pouvoir en Libye et qu'il menaçait la France de ne plus contrôler ses frontières et les migrants si la France intervenait dans son pays. Bon, depuis qu'il s'est fait exégouiller, les côtes libyennes sont devenues un des gros points de départ pour les migrants. C'est aussi en Libye où se trouvent des centres de rétention pour sans-papiers en plein milieu du désert où les gens sont enfermés là sans aucun jugement et sans trop savoir quand et comment ils vont ressortir. Alors l'Union européenne déclare, je cite, s'attaquer aux causes profondes de la migration en œuvrant à la paix, à la stabilité et au développement économique. Bon, alors ça, pour faire joli sur le papier, mais en réalité, c'est une Europe qui lâche, par exemple, en septembre 200 millions d'euros en 2007. Ce septembre 200 millions d'euros en 2007, c'était 122 millions d'euros à Isaïa, qui est le président autoproclamé de l'Érythrée depuis 1994, qui dirige le pays avec une main de fer. Et par exemple, depuis 2004, hein, ce pays a vu 1 million de personnes qui l'a quitté pour fuir les tortures, le service militaire quasi à vie, les djihadistes armés par le gouvernement, etc., etc. Un des autres objectifs de ce sommet, c'est le retour au pays forcé, hein, du coup les expulsions, parce que pour eux, je cite, il convient que l'accroissement des taux de retour ait un effet dissuasif. Du coup, ils partent du principe que quand les gens voient des gens revenir dans leur pays, ils se disent, bon, finalement, ça sert pas à grand-chose d'y aller. Bon, ça, on sait que ça, c'est quand même assez faux. Frontex doit être habilité, également là je cite, hein, habilité à organiser des opérations de retour conjointes de sa propre initiative. Alors pour conclure ce sommet là, en gros ça veut dire, va vouloir dire plus de thunes aux pays que les migrants essayent de fuir pour que les régimes puissent les choper directement, et plus de pouvoir à Frontex pour qu'ils puissent faire leur petite sauce tranquille.
Alors, on parle de peut-être 1,8 milliard qui pourrait être filé aux pays africains, ou peut-être 3,8 milliards selon les articles. Et en tout cas, qui pourrait être filé sur ce coup-ci, hein, d'un coup. Bon, ceci dit, l'Union européenne a l'air d'avoir quand même du mal à trouver la thune pour faire ça, parce que les pays, chaque pays n'a pas non plus très envie de mettre la main à la poche. L'Union européenne a aussi déjà filé très récemment, là, en septembre, 3 millions d'euros à la Turquie pour qu'elle accueille plus de réfugiés sur son sol, puisque la Turquie est un pays qui est traversé par des réfugiés qui viennent en particulier de Syrie. Et bon, les Turcs ne sont pas spécialement cool avec les réfugiés, mais là, l'Union européenne, qui ne veut vraiment pas les voir arriver jusque chez nous, a proposé de la thune à Erdogan pour les garder chez lui. Un autre enjeu, ça serait aussi que les pays africains accordent plus facilement le laissez-passer qui permet de renvoyer les gens chez eux. C'est-à-dire que globalement, si on arrête quelqu'un en France, il faut savoir dans quel pays on le renvoie, il faut que le pays dans lequel on le renvoie accepte la personne. Bon, globalement, théoriquement, dans les conventions internationales, un peu, les pays sont obligés d'accepter des citoyens qui leur appartiennent, mais après, souvent, les gens ayant perdu leur passeport, alors perdu ou planqué, hein, mais en tout cas, on ne sait pas trop à quel pays les attribuer, et les pays se font parfois un peu tirer l'oreille pour accepter de récupérer n'importe qui. Et là, du coup, un des enjeux de filer de la thune aux pays africains, c'est quand même qu'ils prennent plus facilement les gens qu'on veut leur envoyer, d'où le plus gros taux de retour, dont on espère un effet dissuasif dont tu parlais tout à l'heure. Alors voilà. Bon, bah, après, le représentant de l'Union africaine en Europe, là, auprès de l'Union européenne, lui, il dit quand même que si la manière dont cet argent doit être utilisé, donc la partie de ce fric qui doit servir à créer des nouveaux centres de rétention, si cette manière n'est pas décidée, comment ces centres de rétention doivent être construits et gérés, quelles seront les instances de contrôle, eh ben, on va finir avec des prisons à ciel ouvert où les droits humains ne seront absolument pas respectés. Bon, ça, l'Europe, bien sûr, n'en a quand même vraiment rien à foutre, puisque l'important, et là, on est vraiment prêt à lâcher de la thune, c'est que surtout, tous ces crèves la faim ne mettent pas du tout un pied de ce côté de la Méditerranée. C'est-à-dire que l'Europe, plutôt que d'avoir les gens ici et d'être obligé de s'en occuper et de vivre avec eux, quoi, préfère lâcher de la thune pour que surtout ils restent loin et qu'il n'y ait pas de contact avec ces gens parce qu'ils sont vraiment.
Et aussi en fermant complètement les yeux là, du coup, sur l'exemple que je donnais tout à l'heure là, au niveau de l'Érythrée, il y a eu ensuite des commissions européennes qui sont allées mettre le nez un peu dans les comptes de là où était passée la thune, et en fait juste, enfin, et de toute façon l'Europe savait très bien, mais a priori la thune n'a pas servi que à ça. Je veux dire, c'est l'Érythrée, ils ont vu que c'était un pays qui traitait à fond avec la mafia italienne. Enfin, je veux dire, c'est vraiment les pires des salopards. Je veux dire, il n'y a pas fallu attendre la commission pour que l'Europe sache très bien qu'en filant de la thune à ce genre de dirigeant, enfin, il les laisse mettre plein les poches et ça allait pas servir pour les gens, quoi.
Et une autre partie de la négociation serait que l'Europe accorderait plus de visas, alors d'une part de visas scolaires à des étudiants africains qui pourraient venir en Europe, ou en particulier ferait plus de places d'Erasmus. Et aussi de visas de travail pour des personnes diplômées dans certains domaines bien précis. C'est-à-dire, en gros, on importe les gens compétents. En gros, les gens qui, en réalité, pourraient aussi servir au bled à faire des choses intéressantes. Mais bon, en Europe aussi, alors ils sont productifs. Ceux-là, ok, on les fait venir. On en fait même venir plus. Hein, oula, ils vont être contents. Mais ce qu'on veut pas, c'est vraiment les pauvres, quoi.
Et du coup, alors je sais pas si c'est dans ce que tu disais, mais ils ont un peu l'idée, alors je sais pas si ça va se faire là, mais en tout cas ça commence à être évoqué, là, de créer une histoire de carte verte comme aux États-Unis là, pour l'Europe. Et du coup, ce serait pour ça, pour ces surdiplômés qui... Et une des conditions, par exemple, ce serait d'avoir du coup une promesse d'embauche, un contrat de travail, enfin tout ça en bon uniforme, et par exemple un salaire minimum de 4 000 euros. Du coup, à partir de là, on fait quand même un...
Les surdiplômés quand même.
Ouais, c'est ça, on fait un sacré tri, quoi.
Et ben alors, on va vous laisser quelques pistes pour vous faire votre propre agenda. Donc vous pouvez aller consulter le site d'information locale Rébellion, www.radiocanu.info. Vous pouvez également écouter tous les jours de 19h à 20h les Canu Info qui pour d'autres font des agendas. Vous pouvez écouter maintenant Idées Noires qui commence par un agenda la plupart du temps. Et vous pouvez également, pour des infos plus culturelles, regarder le petit bulletin qui se trouve un peu partout dans Lyon. Et Hétéroclite, qui sont de gratuits pour toute la vie, on va dire, associative et culturelle à Lyon.
Allez, ciao.
Eh ben, merci de nous avoir écoutés.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.